Le début du mandat a été une catastrophe, presque un naufrage. Il faut que Nicolas Sarkozy remette les choses à plat, qu'il devienne président. Jusqu'à présent, il n'a pas été président de la République. Il a été une sorte de chef de clan qui a mené une politique illisible, désordonnée, injuste. Et il est temps qu'il s'y mette. Alors si, au moins, il peut se remanier lui-même, je pense que ce sera une leçon des élections.
Il faut qu'on repense, ces modes de garde d'enfants. On repense même nos petites habitudes. L'autre jour, je disais, quand je vois qu'elle reçoit du courrier, on dit « Madame Nicolas Sarkozy ». Je dis « Mais t'as changé de prénom aussi ?»
On est inquiet. Après des municipales qui lui ont fait perdre sa lettre P de populaire, l'UMP serait en train de perdre également le U de Union, puisque les esprits s'échauffent dans le parti du président, à l'image d'un Christian Estrosi qui parle d'un mouvement devenu un machin snob, une armée mexicaine sans véritable chef. Pour parler de l'UMP et de son véritable chef Nicolas Sarkozy, nous recevons aujourd'hui la plus jeune conseillère municipale de l'histoire de Paris, qui est également chargée de mission à l'Élysée puisqu'elle gère l'agenda politique du président. Marie-Laure Harel est avec nous. Elle nous expliquera pourquoi la droite a, selon les mots de Moscovici, pris une grosse branlée au municipal. Elle nous expliquera ce qu'est une bobo de droite et peut-être même qu'avec un peu de chance, elle nous dira si ça aide encore d'être la meilleure amie de la fille de Cécilia. Bonsoir, mademoiselle Harel.
Bonsoir.
La politique addict, c'est la cinquième ce soir. Quand je dis mademoiselle, je me trompe pas.
Hein. Non, j'ai encore le temps, ça va.
Je me méfie avec vous parce que vous faites tout très vite.
Ouais, mais pas ça, justement, non.
Vous avez seulement 24 ans et je le disais, vous êtes déjà élue à Paris sur la liste du 16e arrondissement. Et vous êtes conseillère à l'Élysée depuis un an déjà,
Sarkozy. Mais j'avais commencé déjà à bosser avec Nicolas Sarkozy avant, puisque j'ai commencé au mois de septembre 2006. J'ai intégré son équipe Place Beauvau et après au QG de campagne pendant les présidentielles. Et puis voilà, puis j'ai fini à l'Élysée après.
Alors avant de vous découvrir, de parler de votre début de carrière en politique et puis de la politique en général et de l'actualité, parlons un peu de mes colistiers à moi, à commencer par la déléguée générale à la réalisation de cette émission. Bonsoir Carole.
Bonsoir à tous, effectivement, à la réalisation mais aussi à l'actu. On va avoir un petit quiz, hein. Il est revenu, il est bien là, au municipal, ouais, on a eu un petit peu de mal, mais là, ça y est, il est de retour. J'espère que vous avez bien potassé, ça va être donc toute l'actu de cette semaine.
Voilà, c'est dans une dizaine de minutes, et puis je vous présente la première secrétaire de la cellule web de cette émission. Bonsoir Bérangère.
Bonsoir Thomas, bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous. Donc, cette semaine, je suis allée à l'Élysée.
Ah, toi aussi.
Eh oui, enfin, à l'Élysée, bon, sur le site internet de elysee.fr.
Ah, plus facile.
C'est déjà une bonne démarche. Et enfin, en position non éligible, Philippe. Salut Philippe.
Bonsoir. Pourquoi camarade.
Pourquoi non éligible?
Il est un peu particulier.
Vous en rendrez compte. Vous allez comprendre à la fin de cette émission avec la chronique de Philippe qui n'a toujours rien à voir.
Attends, elle peut peut-être nous donner quelques pistes.
Ouais, alors ce soir, on va parler ch'timi et puis on va voir si notre président est tombé dans ce qu'on appelle couramment le syndrome Candeloro.
Ah oui, évidemment.
Attends. Je suis curieuse de savoir ce que c'est.
Alors avant tout ça, parlons un petit peu de vous. Vous êtes donc conseillère à l'Élysée, je le disais. Vous avez seulement 24 ans. Quel conseil on peut donner à un président quand on a seulement 24 ans?
Bon, alors, pour ce qui est de conseiller le président, bon, je vous laisse imaginer qu'il y a des personnes bien plus compétentes que moi. Moi, je fais partie des petites mains de l'Élysée. Évidemment, c'est pas moi qui suis consultée quand il a des grandes décisions à prendre. J'aimerais bien, mais ça arrivera peut-être un jour. Là, moi, mon but, c'est d'être la petite cheville ouvrière du chef de cabinet qui gère donc l'agenda politique national du président au quotidien. Là encore, j'y contribue, mais je ne décide rien. J'essaie d'apporter des idées. J'essaie de le soulager quand il a trop de tâches sur les épaules. Bon, après, c'est vrai que je fais partie des petits ouvriers de l'Élysée. Je ne suis pas le conseiller du président. Il y en a d'autres. Il y a Henri Guénaud, il y a Catherine Pégard qui conseille réellement le président. J'ai la chance de le côtoyer, mais moi, je ne le conseille pas directement sur sa politique.
Il y a beaucoup de jeunes comme vous autour de lui.
L'équipe est relativement jeune. Il y a... Je pense notamment à une personne dont on a parlé assez récemment, puisqu'il s'occupe maintenant du web. Voilà, donc Nicolas Princen qui
est en train de se bâtir une petite popularité sur le web.
Oui, on regarde ça de temps en temps en rigolant, j'avoue, ouais. Puisqu'on n'est pas tendre avec moi non plus, toujours.
Oui, on va en parler aussi.
Ouais.
On va pas être dans.
Voilà, moi je savais que je serais bien accueillie. Et donc non, l'équipe est relativement jeune. C'est vrai qu'après, de gens comme Nicolas et moi, comme je le dis, on est des petites chevilles ouvrières. Mais parmi les conseillers qui ont en charge des vrais dossiers, des vraies matières, que ce soit l'industrie, les matières sociales, etc., il y a pas mal de conseillers qui ont une trentaine d'années. Donc l'équipe est relativement jeune. Il y a des conseillers seniors. Et une multitude de conseillers qui ont la trentaine.
D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire organiser ou participer à l'organisation de l'agenda du président ?
Alors, pour donner des exemples concrets, ça veut dire, par exemple, il y a un dossier dont je m'occupe très particulièrement, c'est le 14 juillet. C'est après avoir des idées pour le 14 juillet, choisir les thèmes du défilé ou de la journée. L'année dernière, ça a été l'Union européenne. Il se peut vraisemblablement que ce soit la même chose cette année. C'est choisir des thèmes, c'est choisir mettre en avant certains publics, avoir des idées dans le cadre de l'événement. L'année dernière, on avait voulu mettre en avant les victimes de la vie, des personnes qui avaient été victimes de malchance à un moment donné dans leur vie. C'est avoir des idées. Après, par exemple, j'ai eu l'idée au mois de janvier, on a reçu à l'Élysée les fonctionnaires, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, aussi bien des infirmiers que des gens de la SNCF, etc., qui avaient été de permanence le 31 décembre au soir. Donc c'est avoir des idées innovantes comme ça, les mettre en place. Après, il y a toute une partie, il y a une partie d'idées, il y a une partie de logistique. Après,
c'est de l'événementiel en quelque sorte.
C'est une sorte d'événementiel politique un peu, ouais. Oui, c'est vrai que je le regrette un peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de se pencher sur des dossiers de fond quand on travaille auprès d'un chef de cabinet.
Parce que pour vous, c'est superficiel, c'est ça, l'événementiel ?
Non, c'est pas du tout superficiel, mais après, c'est vrai que moi, je demande qu'à apprendre, je suis prête à toucher à tout, mais j'aimerais aussi, et c'est en ça que je suis très contente d'être au Conseil de Paris maintenant, c'est que j'aimerais avoir en charge des dossiers et pouvoir travailler concrètement sur certaines matières.
Alors, on va se débarrasser tout de suite du sujet qui fâche, comme ça, ce sera fait.
Mm-hmm.
C'est vrai que vous vous êtes bâti aussi une certaine popularité sur la toile, notamment parce que ce qui se dit, c'est que vous êtes la meilleure amie de la fille de Cécilia, ex-Sarkozy. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas, déjà ?
Eh ben, tout à fait, c'est le cas. J'ai décidé d'être totalement transparente dessus. Je vais pas faire croire qu'on m'a repérée parmi mille autres dans la rue. C'est la vérité. Je l'assume pleinement parce que je ne crois pas qu'on puisse... franchement, déjà, il aurait fallu que je sois médium quand j'ai rencontré Judith Martin en ayant une douzaine d'années pour deviner ce qui arriverait à son beau-père. Honnêtement, il aurait fallu être sacrément calé.
C'est bien joué, c'est bien joué.
Donc, non, mais c'est la réalité, c'est vrai. Oui, c'est que je n'ai pas d'amitié intéressée, c'est vrai que...
Mais la question, c'est de savoir si ça vous a aidé.
Mais bien sûr que ça m'a aidé. Ça m'a permis de me trouver au bon endroit, au bon moment. Je ne crois pas que ce soit reprochable. C'est vrai que si je n'avais pas été sa copine, j'aurais, évidemment, je n'aurais pas rencontré comme ça Nicolas Sarkozy en tant que simple militante à l'âge de 12-13 ans.
Est-ce qu'elle s'intéresse à la politique ? Parce qu'elles ont été un petit peu en retrait, mais est-ce qu'elle était comme vous, peu passionnée ?
Elle s'intéresse à la politique, elle s'est demandé à un moment donné si elle n'avait pas envie d'en faire. Tout lui aurait été permis, je pense. Elle est très calée, elle comprend très bien les sujets, mais ce n'est pas son truc. Elle bosse dans la finance à Londres et elle trouve son bonheur dedans. Et je lui demande souvent, et à aucun moment, elle regrette de ne pas avoir fait ce choix.
Et vous avez commencé par un stage ? C'était où exactement ce stage et combien de temps finalement de formation pure ?
En fait, ça n'a pas été exactement un stage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais des études de droit que j'adorais pas. J'ai eu un DESS de droit à la Sorbonne, de droit de l'Internet, d'ailleurs. Et comme j'adorais pas ce que je faisais, que je sentais que j'étais pas dans la bonne voie, je voulais partir en Inde toute seule pendant 8-9 mois, puisque j'ai une passion pour l'Inde, que je viens de l'île Maurice, que je connais bien les Indiens. Et j'avais décidé donc de gagner de l'argent pendant 3 ou 4 mois et de partir en Inde. Désolée, je suis malade. Cécilia...
Ce qui veut dire, c'est que vous êtes née en France, mais vos parents sont mauriciens.
Voilà, toute ma famille habite à Maurice. C'est vraiment très important pour moi. Et Cécilia, me voyant partir, c'est vrai que c'était un peu une fuite de vouloir partir en Inde comme ça, 8 mois, parce que j'étais pas très sûre de ce que je faisais. Elle savait que j'adorais la politique, que j'étais militante depuis longtemps. Moi, il y a un an et demi, je soupçonnais pas que je pourrais trouver ma place dans cette équipe. Donc,
vous étiez militante UMP déjà, RPR avant
Non. C'est au moment où je me suis encartée à l'UMP, au moment où le parti a commencé à exister. Donc j'ai milité au sein de la fac, à tracter, coller, participer à un journal à Assas. Donc j'ai milité. Mais je ne pensais vraiment pas qu'à mon âge, je pourrais trouver ma place dans une équipe qui travaillait à un niveau si élevé. Et donc vraiment, sincèrement, je sais que ça peut avoir l'air un peu langue de bois, mais j'avais beau les connaître, jamais j'aurais osé demander de bosser avec eux. Je pensais pas que je pouvais en être compétente. Voilà. Donc du coup, Cécilia, me voyant partir dans mes délires de voyage, m'a dit hop hop hop, t'as besoin de gagner de l'argent, t'aimes bien la politique, on va faire un compromis.
Justement, combien on gagne?
Moi, je connais même pas le salaire de mes parents, donc je vais avoir la décence de pas dire le mien. Je dis en revanche. Honnêtement, pour quelqu'un de mon âge, je gagne bien ma vie, je la gagne mieux que mes amis. Je sais que j'ai énormément de chance, ça me permet de vivre bien. Après, je sais aussi que c'est un métier où tout est assez instable. Je ne sais pas, moi, si dans 5 ans, j'aurai un boulot.
Je ne peux pas dire combien vous gagnez. Par contre, en tant que vous siégez donc au Conseil de Paris, combien on gagne pour ce mandat-là, précisément?
Au Conseil de Paris, un conseiller de Paris gagne 3 000.
3 000 euros.
Ouais, 3 000 par mois, voilà. Donc,
vous disiez que vous ne saviez pas l'avenir, de quoi il sera fait. Est-ce que, honnêtement, depuis le divorce de Nicolas Sarkozy, les temps sont un peu plus durs pour vous? On dit que certaines personnes proches de Cécilia ont été un peu écartées. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, vous?
Non. Certaines personnes ont voulu me le faire ressentir. Bon, moi, j'avoue que...
Ça n'a rien changé pour vous?
Non, c'est une famille que je connais depuis longtemps. Donc, j'ai effectivement été très proche de Cécilia. Après, j'ai une relation à part entière aussi avec Nicolas Sarkozy, c'est sûr.
Vous étiez au mariage?
Non, j'ai pas été au mariage parce que ça tombait le week-end de mon anniversaire. Mes parents m'avaient organisé quelque chose. Donc, j'ai une relation aussi à part entière avec Nicolas Sarkozy. C'est sûr que c'est un homme beaucoup plus occupé, mais c'est quelqu'un de juste. Je fais bien mon boulot. Il a toujours eu la décence de ne pas me mêler à ces histoires de cœur. Et je pense que ça aurait été scandaleux que j'en pâtisse. Et il est assez juste et clairvoyant pour ne pas me faire subir des choses dont je suis pas responsable. Donc il a jamais été question que je bouge de l'Élysée. Sincèrement, j'ai pas senti de malaise du tout par rapport à lui. Des gens, effectivement, ont voulu me faire me sentir mal à l'aise. C'est vrai. Mais lui, non. À partir du moment où ça va bien avec lui, j'ai pas de souci à me faire, je crois.
C'est-à-dire quoi, des gens qui cherchent à vous?
C'est quoi? Vous savez à quel point les rumeurs enflent vite dans ce milieu.
Il y a des jalousies au sein de l'UMP?
Pas plus au sein de l'UMP qu'ailleurs. Il y a des jalousies partout en politique. C'est un monde, je m'en rends compte de plus en plus, qui est vraiment cruel. C'est vrai qu'il y a des côtés... Je sais que je suis pleinement consciente d'avoir eu la chance de commencer ma carrière dans ce milieu-là de manière assez privilégiée, mais je sais que c'est un monde très dur. C'est un monde où il y a plein de rumeurs, où il y a plein de jalousies, où il y a plein de coups bas. Et effectivement, oui, moi, je subis tout ça un peu aussi. Et puis voilà, on m'explique très clairement. La dernière fois que je suis allée, la première fois que j'ai siégé au Conseil de Paris vendredi dernier, une personne que vous avez reçue ici...
Bruno Julia,
m'a
demandé si je faisais partie de la charrette qui quittait l'Élysée. Donc c'est vrai que ce genre de choses, ça aide pas à se sentir en confiance. Donc
mais ça aide à se former, par contre.
Bon, voilà, j'ai pas l'impression déjà qu'il y ait une charrette qui part de l'Élysée. Et malheureusement, lui, il a pas la chance de faire partie, en tout cas, d'une quelconque charrette qui y entre. voilà, je suis bien à ma place et je me sens pas mal à l'aise.
C'était comment l'ambiance d'ailleurs pour la première session au Conseil de Paris?
Alors c'était pas très marrant parce qu'en tant que Benjamine, je devais faire la scrutatrice pendant toute la séance. Donc c'est-à-dire que comme il y avait on votait pour élire le maire, sa liste d'adjoints, etc.
Surveiller les votes.
C'est bizutage pour les jeunes en fait.
Du coup,
les quatre plus jeunes ont passé la
séance. C'est comme pour la galette, quoi.
Exactement. Voilà. Donc on était quatre debout pendant toute la séance.
Et c'est qui les trois autres?
C'était trois PS. Voilà. Heureusement que j'étais là pour sauver l'honneur. Voilà.
Bon, il est temps maintenant, tout de suite. Je sais que vous n'avez pas eu le temps de bosser beaucoup ces derniers temps parce que vous étiez malade, mais tout de même, on va se faire un petit quiz sur l'actualité avec Carole.
Une somme totale de 118 000 francs, 1 million.
Donc le principe est très simple, il suffit donc de répondre aux petites questions et bien sûr, on est un peu tous contre vous et tout le monde va crier son prénom.
Et moi je joue la gagne.
Ah voilà, on va voir.
Moi aussi je joue la gagne perso.
Allez, on est parti, première question. Qui a dit « Je n'ai pas pu dormir, retour de Chine, j'avais le gerbillon »
Dati.
Panafieux. Dati.
Dati, bien, Philippe.
J'imagine pas du tout dire ça.
À propos de Jean-Louis Borloo.
Voilà, parce qu'elle a dormi avec Jean-Louis Borloo.
Voilà, une confidence qu'elle a faite, c'est vrai.
Ah oui, François... puis j'ai entendu que ça avait donné lieu à quelques petits commentaires avec Françoise de Panafieux.
Voilà, c'était ça, des petites messes basses entre filles, mais prises par Canal+.
Gracieux.
Elle a quand même fait ses excuses. Ça, c'est dans les confidentiels du Figaro. Elle a quand même fait ses excuses et elle a reçu en retour un bouquet de fleurs de Jean-Louis Borloo.
Alors, plus on fait bon avec un camembert dedans.
Non, vraiment, il a été beau joueur. Allez, deuxième question. Donc, toujours la même personne. Vous allez croire que je m'acharne, mais non, c'est toujours des potins d'actu pour la carte des Sceaux. Cette fois, donnez-moi le montant des dépenses que Rachida Dati a, a été révélé par Mediapart.
300
000. Des dépenses en quoi ?
200 000 euros.
Entre deux.
Les cocos, bah, moi, j'ai rien compris.
Alors, je n'ai pas entendu la question non plus.
En fait, Rachida Dati, elle a eu énormément de dépenses et ça a été révélé par Mediapart.
Au sein de son ministère, en fait, elle a dépassé, elle a demandé une rallonge de budget.
Exactement.
Je crois que c'était de l'ordre de 150 ou 200 000 euros, ça ?
Alors, c'était 270 000 euros.
270 000.
Mais moi, je comprends
2007.
Pas des dépenses de quoi.
Tout ce qui est réception, restaurant, voyage, mais aussi frais de maquillage.
Oui, mais elle a beaucoup voyagé avec Nicolas Sarkozy.
Et collant.
Ils ont mis collant.
Attends, collant aussi. Bon, l'hiver a été froid, mais tout de même. Et donc, Mediapart a ajouté effectivement une rallonge de 100 000 euros a été accordée au ministère de la Justice.
C'est cher les collants.
Ouais, elle les met.
Et cette information a quand même été confirmée par le porte-parole de la chancellerie, Guillaume.
Oui, mais en revanche, alors moi, j'ai entendu Eric Woerth dire que c'était des crédits qui étaient déjà alloués à son ministère. Elle a débloqué des crédits qui, de toute façon, revenait à son ministère.
Ouais, mais un dépassement de 30% par rapport
à... Peut-être qu'il y a
Est-ce que vous faites des notes de frais pour vos collants
Non. Nous, à l'Élysée, on a zéro note de frais. Ni pour les restos, rien du tout.
Que pour les bars.
On ne paye pas du tout, même.
Quelle dèche.
Allez, non, mais...
Bon, je pense qu'on peut m'accorder le point.
Non. Ouais. Ouais, c'est vrai, 300 000, c'est vrai, t'étais pas très loin. Combien coûte la photo de Carla Bruni Sarkozy nue qui sera mise en vente à New York le 10 avril?
250 000 euros. Bérangère.
Prix de départ. Non,
mais 1 000 euros.
Ah, prix de départ.
Un peu plus.
Ah, prix de départ, 10 000 euros.
Non.
C'est 5 000
Thomas. 15 000
qui... Non, Thomas, il est plus.
2 000 alors.
Allez. 2 500 euros.
2 500 euros.
Et c'est vrai, c'est le prix estimé par Christie's, mais on parie quand même.
Pour une photo nue.
Une photo nue de Carla Bruni, ça tombe bien, hein.
Par un artiste quelconque.
Alors là, je sais.
Non, mais par contre, c'est pour une œuvre caritative, je crois, non ?
Non plus, je ne sais pas.
D'accord.
C'est déjà le prix. Et surtout, vraiment, je pense que ça va quand même s'envoler parce que c'est une occasion pour certains hommes de l'avoir totalement nue. Et on continue.
L'avoir, mais ne pas l'avoir totalement nue.
Non, pas de l'avoir.
Ils n'auront pas, non.
Peut-être que certains ex nostalgiques d'une certaine époque.
Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà eu.
Quelle est la marque de haute couture qui habillait la première dame de France durant son séjour outre-Manche ? Exactement.
Ah oui, Dior, elle avait un manteau Courrèges aussi.
Elle avait... Non, c'était Dior exclusivement.
Non, mais si... style Courrèges,
si,
non
si, si, si,
ah,
si,
le manteau violet.
Aujourd'hui, je ne sais plus où.
Alors, le Figaro du Dior exclusivement.
Je pense qu'on peut vous faire confiance. Ouais.
Vous en avez pensé quoi, d'ailleurs, de la tenue de Carla
Moi, je trouvais... Sincèrement, j'ai trouvé vraiment élégante et j'ai trouvé qu'elle avait fait un bon compromis parce qu'elle
était
à la fois...
C'était pas un peu tristouille?
Non, moi je trouvais que
tristouille.
Attention, conversation de filles.
Tristouille, on peut y aller. Hein.
Ok, combien de points regagne Nicolas Sarkozy selon le dernier sondage LH2?
3.
Bien joué. Ah, là, alors ça, vous le savez, ça, il n'y a pas de
ça. À l'Élysée, il en perd 3, je sais.
Voilà, il en perd 3, mais bon, il reste quand même plus populaire.
Vous êtes au taquet là-dessus quand même.
Oui, non, mais là,
c'est quelque chose qui stresse à l'Élysée un peu.
Non, non, c'est surtout que c'est le premier truc que j'ai entendu à la radio en me levant ce matin. Honnêtement, j'en ai parlé avec personne aujourd'hui.
C'est juste les journalistes. Ce qui s'y intéresse à l'Élysée, ça...
Non, mais bien sûr, bah, on va pas se voiler la face. Ouais. C'est un peu la religion de tous les hommes politiques, hein, les sondages. Hein, ça. Et pas plus Nicolas Sarkozy que quelqu'un d'autre.
Il est particulièrement drogué au sondage.
Non, pas plus que les autres. Moi, pour en avoir entendu d'autres parler, ils sont vraiment assez accros au sondage. Ouais. Lui, vraiment pas plus que les autres, hein, franchement.
D'accord.
On continue avec un sondage, justement. Alors, qui est désormais le chef, le meilleur leader de la gauche ? Selon le même sondage.
Bérangère, Delannoy.
Effectivement, c'est Delannoy. Il est passé devant Ségolène Royal selon le dernier sondage Libération LHD. Bravo, Bérangère.
Ah bah, dès que c'est politique, hein, Bérangère, elle répond.
Bon, et dernière question.
Bah, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour l'instant, c'est Philippe qui mène.
Ah bon ?
Incroyable.
Et ouais.
Deux points, Philippe.
Merci Thomas d'avoir suivi. Normalement, c'est toi qui as fait compter les points.
Il y a deux et un partout, c'est facile.
Qui était l'invité au grand jury RTL Figaro LCI ce week-end et qui pouvait faire de l'ombre à François Fillon, invité sur TF1 ?
Bertrand.
Xavier Bertrand, tout à fait.
Bien joué.
Et c'est l'occasion pour moi de poser une question à Marie-Laure.
Sur les jingles.
Alors, plutôt François Fillon ou plutôt Xavier Bertrand ?
Ah, la bonne question.
On parle pas du physique, hein,
bon, je sais que non. Moi, celui que je connais le mieux des deux, c'est Xavier Bertrand. Et après, je sais pas, c'est pas... je parlerai pas de préférence, mais c'est sûr que c'est avec lui que j'ai le plus d'affinité. C'est la personne que je connais le mieux. Et... Puis, moi, c'est quelqu'un que j'ai particulièrement envie de suivre.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez lui?
Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'il mène sa barque un peu tout seul. C'est vrai.
Beaucoup lui reprochent d'ailleurs.
Oui, c'est bien. Il n'y a pas de logique de clan. Moi, j'aime bien. Je trouve en plus que c'est quelqu'un qui est extrêmement agréable à écouter. Je trouve qu'il parle. Je dis toujours que je trouve qu'il parle un peu comme un pédiatre. Il est très pédagogue. On a envie de l'écouter. C'est un type intéressant. Je trouve qu'il est rassurant. Et puis j'aime bien le fait qu'il ose résister tout seul face à tout le monde, qu'il n'ait pas plus d'alliés que ça, et que finalement ça l'empêche pas d'avancer, de rouler sa bosse. Moi, je trouve ça top.
D'accord. Et vous pensez qu'il a plutôt la cote en ce moment, la Lévisée?
Mais il a toujours eu la cote. Ouais. Je pense que justement, comme il avance tout seul, finalement, c'est celui auquel on reproche le moins de choses, quoi.
D'accord. Alors, il est temps maintenant de faire une petite pause musicale. Juste avant, on annonce le gagnant quand même. Je crois que c'est Philippe, hein, clairement.
Bon, bravo, éligible.
C'est pour ça qu'il va lancer la chanson, Philippe.
Oui, alors pour se remettre dans le contexte, en novembre 2005, ce sont les 48 heures UMP, c'est-à-dire une sorte de grande battue à l'adhérent à laquelle vous avez peut-être participé, mm-hmm. Marie-Laure. En tout cas, pour marquer le coup, David Delimon décide de nous chanter son Pays France, une superbe ode, on va dire, un rock puissant de droite. Alors,
rap même, hein, je crois.
Fusion.
Vous allez voir, c'est un moment exceptionnel. Écoutez ça.
Moi je dis qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays où l'homme n'est pas une bête qu'on maltraite ou qu'on oublie. Le gros problème est dû que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans l'égalité des sommes. Certains abusent des dons financiers publics sans même avoir cotisé un moindre fonds d'assédique. Aucun se rend compte que tout devient critique, des sortes de vacances aussi belles que maléfiques. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots. Aussi, je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'il veut aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. On nous donne pas trop le choix de faire un job rêvé, mais plutôt de s'en tenir compte au premier taf donné. Le travail au black monte et faut pas s'étonner que les gens craquent sans dette et puis sont étranglés. Bien trop de charges noient tous les patrons d'usine. En fin de compte, c'est nous qui sommes les victimes. Derrière notre patrimoine aussi beau que sublime se cache trop d'actes inégalissimes. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots. Aussi, je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'il veut aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Sans critiquer notre politique, bon sens, ça craint. Trop de gens se plaignent de tous nos politiciens qui se tuent la vie tous les jours comme des chiens à se préoccuper du bien-être de tous les citoyens. La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité? Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh,
trop d'impôts, trop de complots aussi.
Ça c'est du bon,
c'était
c'est
beau,
du bon.
Hein.
David Limon, qui n'a pas fait carrière depuis, curieusement, on n'a pas de nouvelles de David Limon. On en attend toujours. Alors on va parler un petit peu maintenant avec vous, Marie-Laure Harel, des municipales. Puisque je disais, donc, plus jeune conseillère de Paris, de l'histoire de Paris même, c'est ça, hein?
Waouh, ouais.
Ah, c'est vrai. Et ce sera quoi votre domaine d'action exactement? Ce sera quoi votre boulot?
Bon, on n'a pas encore défini exactement les commissions dans lesquelles on va rentrer. Moi, je sais que j'aimerais ne pas rentrer dans une commission qui gère uniquement les problèmes de jeunesse. Ouais. D'abord parce que je pense que c'est pas la meilleure chose de cantonner un jeune aux problèmes qui concernent les jeunes. Un jeune est tout à fait capable de s'intéresser aux autres problèmes de sa ville. Et puis d'autre part, même moi, je vais me faire coincer au bout d'un moment. Je veux dire, si je mise que dessus, le jour où je suis plus jeune, j'ai plus rien à faire, j'ai pas très envie. Puis d'autant que là, bon, Bruno Julliard est adjoint au maire en charge de la jeunesse. J'avoue que j'ai pas très envie non plus de monter dans une commission. Moi, je vais être complètement muselée et je vais le regarder faire. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressée pendant la campagne et qui est d'ailleurs le puits où il y a le plus de polémiques et de contestations, c'est la circulation, les transports, les stationnements, etc. Moi, j'adorais bosser dessus. J'aimerais m'occuper de ça. Bon, donc, c'est pas encore réglé le problème des commissions, mais en tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour rentrer dans celle-là.
Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour lutter contre la pollution à Paris? Des mesures comme à Londres, taxer les gros véhicules, les grosses Porsche Cayenne qui sont nombreuses dans le 16e.
Surtout, ce que j'aimerais faire, moi, c'est mettre un peu le holà sur des choses que je trouve complètement anarchiques. On peut pas, quand on entend là, Contasso dire on va faire vivre un enfer aux automobilistes pour les faire abandonner leur voiture, c'est totalement impossible. Comment expliquer à des provinciaux qui arrivent dans Paris qui peuvent pas venir en voiture, comment un commerçant ou un caméraman ou je ne sais quoi qui a du matériel à transporter ne peut pas utiliser sa voiture, une maman dont l'enfant a une jambe cassée, enfin, c'est totalement incohérent. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête là de grignoter toutes les places de parking. Je sais que ça fait des PV, je sais que ça fait de l'argent qui rentre dans les caisses de la ville, etc. Bon, moi, je voudrais surtout qu'on arrête là la chasse aux sorcières. C'est surtout ça que j'aimerais pouvoir calmer un peu, quoi.
Oui, mais il y a une grosse partie de la pollution qui provient quand même des gaz d'échappement.
Oui,
mais
alors peut-être
voitures,
que déjà, il faudrait donner l'exemple en ayant des véhicules public propre, quoi. Tous les bus qui circulent dans les couloirs de bus faits pour réduire la pollution ne sont même pas tous équipés de filtres à particules. Il y a déjà un problème de ce point de vue-là, si on veut montrer l'exemple, qu'on le montre jusqu'au bout, quoi. Enfin...
C'est quoi votre ambition à Paris? Vous aviez dit à un moment que vous pensiez éventuellement à la mairie du 16e un jour. C'est votre rêve,
bon,
ça?
Non, là, c'est marrant parce que, en fait, c'est toujours très délicat de parler de ses ambitions. Quand on me dit quel est son objectif, ouais, ou son rêve, on prend toujours.
C'est normal en
figure.
Même temps d'avoir des ambitions.
Voilà, et
ben
voilà,
votre âge,
ben moi, je suis pour les assumer, pour les dire. Je veux pas faire partie de ceux qui disent oh là, je vais bien faire mon travail et puis on verra. Évidemment, j'ai plein de rêves dans ma tête. Simplement, j'ai la décence de ne pas espérer accomplir mes rêves là, dans le mois ou dans l'année, quoi. Ouais. Donc, peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans,
président.
Oui. Il y aura...
Non,
ça pour le coup ça m'intéresserait pas, en plus je voudrais pas cette vie vraiment, mais en tout cas non, pourquoi pas, oui, si dans 20 ou 30 ans il y a moyen, oui, j'aimerais bien être maire du 16e. Si un jour il y a moyen d'avoir une place au Sénat, surtout le Sénat qui me fait beaucoup fantasmer.
Ah bon?
Oui.
C'est rare, c'est déjà, c'est le Luco, c'est pour ça.
Non, mais c'est toujours, en plus, je trouve.
C'est vrai qu'un beau sénateur.
Oui, bon, ouais, c'est...
bien endormi.
Donc non, oui, j'aimerais, oui, pourquoi pas. Si,
pourquoi le Sénat plus que l'Assemblée nationale? C'est marrant, parce que généralement...
Parce que je sais que le Sénat...
est vu comme quelque chose de provincial, enfin beaucoup moins...
Le Sénat est vu comme ayant un peu moins de pouvoir que l'Assemblée nationale. Moi, j'ai en tout cas le sentiment qu'au Sénat, on se crêpe moins le chignon, qu'on travaille dans un cadre plus serein, plus intellectuel. Et vraiment, moi, ça me fait plus rêver. Je trouve que les sénateurs ont, je dis pas du tout que les députés sont indignes, hein, bien loin de là, mais les sénateurs ont, je trouve, une prestance et
l'aura du sage,
voilà,
un peu.
Voilà, ouais. Exactement. Moi, vraiment, ça m'attire beaucoup.
C'est l'âge.
Au lendemain de la défaite à Paris, vous avez signé une tribune avec d'autres conseillers UMP de Paris.
La polémique.
Alors, je ne sais pas si c'est polémique. Hein,
si, parce que j'ai un démenti qui est sorti dans Le Monde aujourd'hui.
D'accord. Juste pour rappeler, où vous parliez un peu, vous auto-désignez comme les bobos de droite, en parlant de la reconquête de Paris pour 2014 et de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller conquérir les bobos pour reconquérir Paris en 2014.
Alors, donc déjà, je vais pouvoir arrêter ça très vite puisque je n'ai jamais signé cet article. Il y a un problème, c'est que comme je suis une minette sympathique qui rigole, jeune, etc., on a tendance à croire parfois que je ne pense pas et que je signe tout et que je suis en quête de médias, etc., que je suis ravie de voir mon nom partout. C'est pas du tout le cas. Déjà, cette tribune est sortie, je ne l'ai même pas vue, donc déjà, c'est assez humiliant de ne même pas avoir été consultée, de ne même pas avoir été associée à une réflexion avec laquelle j'aurais peut-être pu trouver un point d'entente. Je n'ai pas été consultée. Je retrouve mon nom là, alors bon, ça me donnait beaucoup d'importance. Je ne savais pas que j'avais une aura comme celle-là. Peut-être que c'est parce que je travaillais.
Qui est-ce que vous
avez mis sur ça ? Bah, c'est les autres signataires, voilà, donc je ne préfère pas redire leur nom. Tout le monde a pu voir de qui il s'agissait.
Bon. C'est qui, Thomas ?
Bah, ils n'étaient pas très connus, donc je n'ai pas retenu leur nom.
Voilà, bon,
il y avait Roxane Descortes, ça, je
sais. Ah oui, il y a Roxane Descortes.
Ouais. Oui, non, mais bon, c'est un mouvement qui est surtout impulsé par Thierry Coudert. Voilà, le directeur de cabinet de Brice Hortefeux. J'aime beaucoup Thierry Coudert. Simplement, j'aimerais juste qu'on ne pense pas à ma place. Il y a, ce qui est très embarrassant, c'est que dans cet article, il y a un certain nombre de prises de position qui ne correspondent pas du tout à ce que je pense. Il y a, c'était quand même, et on parlait de péage urbain, etc. Moi, j'en suis à un stade où là, j'essaye de comprendre mes dossiers, de les apprendre. Je n'ai pas du tout envie, en plus, de rentrer dans une logique d'opposition systématique et d'être un petit roquet qui aboie alors que Bertrand Delanoë a été élu il y a une semaine, il n'a même pas eu le temps de prendre la moindre décision. Faire une lettre d'opposition à Bertrand Delanoë une semaine après son élection, je trouve que c'est ridicule. Moi, j'ai pas envie de faire ça.
Surtout que vous devez vous travailler à votre refondation là, avec
voilà,
la nomination de Jean-François Lamour.
Et puis en plus, on est une opposition assez restreinte au Conseil de Paris, donc c'est pas le moment de faire des milliers de petits mouvements à l'intérieur. Il faut bosser tous ensemble. À 50, c'est tout à fait envisageable. Et donc voilà, donc j'ai demandé à ce qu'un démenti paraisse aujourd'hui dans Le Monde, donc il est dans la page des débats, et je dis que je ne suis pas signataire et que j'ai pas été associée à cet article. Et a priori, ça ne devrait plus se reproduire.
Vous pensez que Jean-François Lamour, c'est un bon chef pour la droite parisienne?
Je pense que c'est un bon chef.
Il vient d'être nommé ce week-end. Donc.
Oui, voilà. Mais je pense que c'est un bon chef parce que je pense que, comme tout le monde le sait, c'est vrai qu'à la sortie des élections municipales, je ne vais pas mentir dessus, il y a eu des petites tensions, comme on a pu le voir dans le 8e ou ailleurs. Il y a eu des petites listes dissidentes. Il y a eu, bon, voilà, des petites guéguerres à droite à gauche. Moi, Jean-François Lamour me donne le sentiment d'être quelqu'un qui a la rondeur et la sagesse nécessaires pour aplanir tout ça. Je pense que ça va être quelqu'un qui saura vraiment aplanir les tensions. Et il m'a l'air d'être quelqu'un, en tout cas, qui est bien à l'écoute et qui est tout à fait disposé à ce qu'on bosse sur un projet tous ensemble. Non, moi, il me satisfait pleinement. Je suis très contente.
Au-delà de ces tensions au sein de votre majorité, comment vous expliquez la défaite de Françoise de Panafieux?
Comment je l'explique? Je pense qu'on s'est trompé cruellement sur quelque chose pendant la campagne municipale, qui est que dans le cadre d'élections locales comme celle-là, je crois pas qu'on vote uniquement pour un parti. Je crois qu'on s'est trop reposé sur le fait qu'il y avait un électorat UMP, un électorat PS, etc. Je crois que vraiment, on n'a pas assez... On a eu des propositions qui ne correspondaient pas à ce que les Parisiens attendaient. Je crois qu'on n'a pas... je crois que dans le cadre de municipal, on vote vraiment pour une personne et pas pour un parti. Et on n'a pas su convaincre. On n'a pas eu des bonnes propositions. Peut-être que Françoise de Panafieux n'a pas su être assez charismatique. Il y a eu une erreur dans le comportement. Pas dans le casting, non, mais dans le comportement. C'est que je pense qu'on s'est trop reposé sur l'idée que...
C'était perdu d'avance.
Non, sinon, déjà, il fallait respecter aussi le fait que c'est les militants UMP qui l'ont désigné. Donc, de toute façon, à partir du moment où ça a été fait de cette manière, on ne peut pas le défaire arbitrairement.
Puis un très bon adversaire aussi.
Pardon ?
Et puis un très bon adversaire.
Puis un très bon adversaire qui est très populaire. Et voilà, je pense que réellement, il y a une partie de l'électorat de droite qui a voté pour Bertrand Delanoë parce que dans les municipales, on s'intéresse plus aux propositions qu'aux personnes. Et même quand on est de droite, on peut voter pour Bertrand Delanoë. Et voilà, on ne l'a pas compris et on n'a pas fait des bonnes propositions. On n'a pas assez écouté ce que les gens avaient à nous dire. Je pense déjà qu'on aurait pu 10 fois plus insister sur les problèmes de circulation, de transport qui sont le souci majeur des Parisiens. On ne l'a même pas fait. Donc,
Et comment vous avez ressenti un peu les jeunes militants après le retrait finalement de Françoise de Panafieux? Elle s'est retirée de manière un petit peu... Enfin, c'est vrai, elle a pleuré, on l'a vu, qui était plutôt mal. Un échec comme ça, c'est toujours douloureux en politique. Comment vous, à l'intérieur de l'UMP, vous l'avez vécu?
Comment nous, on l'a vécu? C'est un peu particulier, la logique des municipales. C'est qu'il y avait... les jeunes militants sont rattachés à un arrondissement. Donc... Françoise de Panafieux n'avait pas vraiment de militants propres. Il y avait des militants dans un arrondissement qui indirectement militaient pour elle. Donc je crois surtout que les militants de chaque arrondissement ont pleuré pour le sort de leur propre arrondissement. Et je crois que, pour être tout à fait honnête, les militants d'arrondissement qui ont pu passer et n'ont pas forcément été les plus atteints par le retrait de Françoise de Panafieux. Je crois que dans ce genre de cas, on se pense surtout sur son propre sort. Ouais. Et malheureusement, c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça que ça marche.
Alors si on sort un petit peu de Paris, on a vu qu'à droite, au lendemain des municipales, personne osait utiliser le mot de défaite. Je crois qu'il n'y a que Jean-François Copé que j'ai entendu dire que c'était une défaite. Est-ce que vous reconnaissez que c'était une défaite pour la droite et comment vous l'expliquez ça?
Moi, je dirais plutôt... moi, je suis assez d'accord avec le mot de défaite. Je ne sais pas si c'est lié à mon jeune âge, mais je ne suis pas du tout langue de bois. Je trouve que quand il y a une déception, il faut l'admettre. Il faut arrêter de vouloir arrondir sans cesse les angles et dire que ce n'est pas si mal que ça aurait pu être être pire. Bon, non, on n'a pas réussi. On s'est mal débrouillé. On a visiblement, je pense, un peu pâti de toutes les réformes qui sont en train d'être entreprises. Et on le savait, elles nous rendraient impopulaires à un moment donné. Localement, on a eu des candidats qui n'ont peut-être pas été à la hauteur. Bon, moi, je suis pour admettre qu'effectivement, oui, non, c'est une défaite. C'est décevant. Ce n'était pas des bons résultats.
Vous qui travaillez aux côtés du président, est-ce que vous aviez perçu des erreurs qu'il a pu faire, des erreurs qu'il a pu commettre dans son comportement? Est-ce que vous avez ressenti ça
d'intérieur? Pas vraiment, parce que déjà, il n'a jamais voulu vraiment se mêler au municipal. Donc, il est resté en retrait par rapport
à
ça.
Pas au début. Au début, il avait dit qu'il offrait un combat national.
Je suis d'accord. Ça a été,
il s'est retiré par la suite.
Ça a été assez confus. C'est vrai. D'ailleurs, il est revenu sur sa position. Les municipales, ce n'était pas un enjeu pour Nicolas Sarkozy. C'était un enjeu pour l'UMP. C'est l'UMP qui investissait ses candidats. C'est l'UMP qui suivait la campagne. Ce n'était pas Nicolas Sarkozy. Donc, d'ailleurs, il s'est retiré. Donc, bref, il a pris une bonne position au final. Il ne s'est pas mêlé plus que ça de la campagne municipale. Après, bon, on n'allait pas être hypocrite et suspendre les réformes le temps que les municipales se passent pour berner les électeurs. Enfin, évidemment, la droite a forcément un peu pâti des réformes qui sont en train d'être entreprises et qui pousse un certain nombre de personnes à être dans
l'image
la rue.
Du président aussi, quand même.
Bah, tout ça, c'est
le
lié.
Style.
Hein. C'est, tout va... Non, mais tout va ensemble.
Bling,
c'est,
bling.
Le style bling, bling, bon, ça, on l'a pas mal entendu. Bon, moi, je préfère... Bon, il s'est remarié vite, il va sur des bateaux. Bon, ben bah, voilà, il est heureux.
Et vous y allez d'ailleurs sur ces bateaux, plus. Parce qu'il paraît que vous partez en vacances avec lui.
Oui, j'ai pu partir en vacances avec eux, effectivement, oui, quand j'étais plus jeune, comme j'étais très amie avec Judith, oui, c'est vrai, j'ai d'ailleurs déjà été sur ce bateau, oui.
C'est bien, c'est honnête de le dire. On va passer maintenant tout de suite à la chronique web. Est-ce que vous vous servez un petit peu du web? C'est présent dans votre quotidien, je suppose.
Oui, oui, c'est présent dans mes petits achats aussi.
Même si c'était, même si c'était un DSS droit de l'Internet, on va replonger dedans, effectivement.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, je dirais même, chers audinautes, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique de Clic-Clic Politique.
Mais nous aussi, on est heureux, Bérangère.
Alors, Marie-Laure Harel, vous travaillez, comme on l'a dit, à l'Élysée. Autant vous dire que lorsque j'ai appris cela, j'ai été comme prise par des pulsions fantasmagoriques. Oh, comment c'est de travailler à l'Élysée? À quoi peut ressembler votre bureau? Avez-vous vu sur le jardin? Et oui, Marie-Laure, comment faisons-nous, pauvres citoyens à qui les grandes portes de ce château ne seront peut-être jamais ouvertes, pour savoir ce qui s'y trame? Eh bien, le meilleur moyen, c'est encore d'aller se promener sur le site internet www.elysee.fr. Alors, première surprise en arrivant sur le site, mais c'est le même site que celui du candidat Nicolas Sarkozy à la présidence, même gabarit, même PRTV. La page d'accueil regorge de photos de Nicolas Sarkozy. Alors, nous avons Sarkozy sur le bandeau, photo officielle de Sarkozy, Sarkozy sur la télé. Alors, quand je suis partie à la conquête de ce site, j'ai retrouvé des rubriques classiques d'un site présidentiel. Une biographie de notre président, des informations sur les personnages clés de l'État, les symboles de la République, une Élysée Tech avec les discours, les conférences de presse et tous les déplacements de Nicolas Sarkozy qui m'ont d'ailleurs fait penser au livre de mon enfance, Où est Charlie? Vous vous souvenez de ça?
Oui,
Où est Charlie?
C'était bien.
Donc là, c'était plutôt où est Nicolas Sarkozy en France, à l'étranger, bref. Mais ce qui est au cœur du site internet, c'est bien sûr la télé présidentielle et ses différentes chaînes. Et oui, la télé présidentielle, c'est plein de vidéos regroupées sous les thèmes suivants. Au jour le jour, à l'Élysée, interview. Pour clarifier les choses, ce n'est pas vraiment une télévision avec différentes chaînes, c'est juste un système de VOD, vidéo à la demande. Bon, je le trouvais un peu terne, mon site présidentiel, donc en tant que bonne citoyenne, je vous soumets tout de go les fonctionnalités et les modules qui me donneraient envie de participer et de revenir plus souvent. J'aimerais effectivement pouvoir donner mon avis, partager mes opinions, vivre quotidiennement la e-démocratie. Plus généralement, un site internet est un moyen idéal de prendre le pouls de la société et les citoyens veulent être entendus par leur président. Pour cela, il faut des outils, par exemple la possibilité de faire des e-pétitions, comme cela est désormais possible sur le site de Downing Street. A noter que la pétition qui a généré le plus de signatures concerne la demande d'un jour férié supplémentaire, avec 524 373 signatures. Ça, c'est sur le site donc, du Premier ministre anglais. Hein. Je souhaiterais aussi, comme nombre de nos concitoyens, avoir la possibilité de pouvoir discuter avec vous, mademoiselle Marie-Laure Harel, et avec les différents membres du cabinet présidentiel.
Peut-être qu'elle n'avait pas le temps, en fait.
Peut-être. Mais pourquoi ne pas organiser des chats hebdomadaires? Ce serait un formidable moyen de répondre aux questions que nous nous posons sur le mystérieux monde de l'Élysée. Alors, autre petite remarque, alors que le site internet de notre Premier ministre est disponible en anglais, allemand, espagnol, celui de l'Élysée est uniquement disponible en français. Hein. C'est quand même curieux pour le site qui représente
France,
le plus grand VRP de notre pays. Autre question, pourquoi ne pas non plus investir les différents réseaux sociaux que nous offre aujourd'hui Internet ?
Facebook.
Facebook.
L'Élysée sur Facebook, c'est ça
non,
que tu veux ?
Non, pas forcément Facebook, mais... Donc Downing Street, qui, comme vous l'aurez compris, est un peu mon modèle, vient de lancer ses albums photos sur le site.
T'es allé en voyage présidentiel, toi aussi, ou quoi ?
Mais pour Nicolas Sarkozy, c'est
un
modèle.
Ils ont moins d'images, de vidéos et tout sur leur site. On n'a pas besoin d'aller les mettre ailleurs, nous, puisqu'on les a sur le nôtre.
Mais c'est pour fédérer les communautés, les réseaux, la toile, l'araignée. Bref, les premières photos uploadées sur cet espace sont celles de la visite de Nicolas et Carla Sarkozy au numéro 10. Le site du Premier ministre anglais s'est aussi étendu sur les pages de YouTube, où vous pouvez visionner une des 125 vidéos mises à disposition. Et dernier espace communautaire investi par Downing Street, c'est le fameux Twitter. Donc tous les concitoyens anglais peuvent suivre les gazouilles de leur Premier ministre. Alors Marie-Laure Harel, je me tourne vers vous. Pendant la campagne présidentielle, vous vous êtes occupée notamment de la télé sur Internet du candidat Nicolas Sarkozy, une télé qui s'appelait Le jour J, c'est bien cela, et qui expliquait aux jeunes le programme de Sarkozy. Pourquoi ne pas continuer ce dialogue sur le site de l'Élysée ? On pourrait peut-être imaginer une rubrique qui expliquerait les réformes de ce quinquennat aux jeunes. Qu'en pensez-vous ?
C'est tout plein de bonnes idées.
Elle a bossé pour vous.
Non,
les idées à transmettre maintenant.
Ouais, j'ai piqué des idées là, je vais aller me faire valoir en les.
Allez voir Nicolas de ma part.
J'ai bossé hier soir.
Alors j'ai vu le site de Downing Street.
Non, mais pourquoi pas continuer le dialogue justement que vous avez commencé pendant la présidentielle sur le site de l'Élysée.
Moi je suis pas la mieux placée pour parler de ça maintenant. C'est vrai que moi ce que je faisais pendant la campagne, sachant que j'ai pas une formation de caméraman, monteur, etc., j'avoue que je me prenais beaucoup la tête et que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps tous les jours et que je peux plus le faire maintenant. Donc, après, bon, effectivement, oui, pourquoi personne ne s'en occupe ? Pourquoi ?
Moi, très honnêtement, j'ai été déçue par le site. C'est-à-dire que je pensais que, justement, j'étais impressionnée par tout ce qui est Fédération Numérique UMP, par le site de la campagne présidentielle qui était quand même très... très puissant, et là je trouvais que le soufflet était un peu retombé et que le dialogue, oui pendant le temps des promesses, mais après
bon, après c'est vrai, oui, non, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire, oui, les chats, etc. C'est effectivement, moi là j'ai pas grand chose à dire puisque je travaille plus dans cette cellule, mais c'est tout un tas de bonnes idées, effectivement, oui, qui valent le coup d'être mentionnées.
Vous avez des responsabilités encore au sein de l'UMP ou pas?
Non, d'ailleurs, j'ai jamais eu de responsabilité réellement, moi, au sein de l'UMP. C'est d'ailleurs, ça a un peu compliqué mon évolution puisque j'ai pas... j'ai été militante, effectivement, j'ai ma carte.
Il y a un rôle un peu parallèle.
Mais voilà, donc j'ai pas. C'est vrai que je pense qu'il y aurait des choses qui auraient été plus simples pour moi si j'avais acquis une vraie légitimité au sein du parti, puisque généralement c'est là le tremplin.
Par là que ça se passe. Ouais.
Donc voilà, bon, c'est vrai que ça a compliqué certaines choses, mais donc non, j'en ai jamais eu.
Mais vous avez suivi quand même ce week-end la réorganisation de l'UMP. Enfin, vendredi, il y a un nouvel organigramme qui a été. Réalisé, fait, je peux pas dire voter parce que c'est pas vraiment le cas, c'est des nominations,
oui,
tout ça.
Oui, j'ai vu que mon ami Xavier Bertrand allait
et Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. Est-ce que vous n'êtes pas choqué par le fait que ce soit le président qui ait initié ce remaniement, qui est le président de tous les Français, pas seulement du parti UMP?
Oui, bon, non, mais là il faut arrêter de se voiler la face aussi. On sait qu'il est issu d'un courant politique, il n'a pas perdu son étiquette, il est le président de tous les Français, mais il n'a pas arrêté de penser UMP le jour où il est entré rue du Faubourg Saint-Honoré.
C'est important pour lui de rester présent dans la stratégie de l'UMP.
Bien sûr, il y a quand même une majorité présidentielle au sein de l'Assemblée, etc. Enfin, c'est le pilier du président, son parti. Donc, il se doit effectivement de prendre des décisions sans tenir compte de son appartenance politique, ok. Mais on sait que c'est de là qu'il vient, on sait que c'est dessus qu'il se repose. Donc, non, ça ne me choque pas.
Et quand il intervient pour permettre à ce que son fils devienne le chef des ANEI, le chef des UMP ANEI, ça ne vous dérange pas, ça?
Déjà, je ne sais pas dans quelle mesure il est intervenu. Bon, là, le chef de file des UMP à Neuilly, moi, là, je crois qu'il n'y a pas de polémique. On a quoi ? À Neuilly, on a deux personnes qui comptent. On a le maire et le conseiller général. Il y a Fromentin et Jean Sarkozy.
Il y avait Arnaud Tellet aussi.
Arnaud Tellet, là, pour le coup, bon, il y a des petits soucis par rapport à l'UMP, etc., quand on fait des listes dissidentes. Bon, le réel UMP, c'est Jean Sarkozy. Fromentin ne veut pas être en cartel UMP, etc. De toutes les personnes qui pouvaient compter au sein de l'UMP, à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, il ne restait que Jean Sarkozy. En procédant par élimination, déjà, il ne restait que lui. Donc là, de ce point de vue-là, on a peut-être pu critiquer le fait qu'il soit candidat à un moment donné. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien à dire. Il n'y avait que lui, concrètement.
D'accord. Même s'il a 21 ans, ça pose pas de problème. Ça, ça vous paraît le mieux placé.
Non, moi je pense qu'on est tout à fait. Enfin, on peut être un bon militant et bien comprendre l'esprit militant de la région de laquelle on vient. Même
parce qu'à Neuilly, je suppose que c'est pas les UMP qui manquent quand même.
Oui, mais bon, enfin voilà. Moi je pense qu'à 21 ans, il est apte tout comprendre. Je pense qu'il a un formateur de choc à côté de lui. Et réellement, non. Techniquement, il y avait que lui, hein, de toute façon. Donc il y a pas de polémique. Fromentin et Tollet ne sont pas UMP. Enfin, ne peuvent pas se présenter comme UMP.
Et les nouveaux entrants au gouvernement. Notamment Nadine Murano à la famille. Est-ce que pour vous, c'était des bons choix politiques? Est-ce que vous attendiez à d'autres entrées?
Un remaniement très UMP, justement.
Pour ce qui est de Nadine Murano, moi, je suis assez contente parce qu'elle elle s'était quand même battue comme une tigresse pendant toute la campagne présidentielle et elle aurait mérité une petite récompense. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait, du moins quand Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Élysée.
C'est vrai que le terme de tigresse lui va pas mal.
Non, mais elle s'est donné du mal et je trouve que c'est très juste de ne pas la sanctionner parce qu'elle a bien voulu prendre des risques et aller se cogner une campagne municipale qui n'était pas gagnée d'avance. Si on devait sanctionner les gens chaque fois qu'ils perdaient quelque chose, ils ne se feraient plus jamais d'élection. Donc, moi, je trouve ça bien.
Sa campagne à Toul où elle est arrivée troisième, donc.
Donc bon, moi je trouve que c'est bien de ne pas avoir tenu compte de ça et de ne tenir compte que de l'effort et du mérite. Je crois qu'elle en a engrangé suffisamment depuis la campagne pour mériter sa place au gouvernement maintenant.
D'accord. On va refaire rapidement une petite pause politique justement en hommage à tous ces gens qui ont, enfin ces quelques personnes qui ont voté à droite aux dernières municipales avec les Fatal Picards. Un petit mot là-dessus, Philippe?
Non, t'as tout dit, hein, je crois. Live from Puto, now Fatal Picard.
Le titre, je veux
et
t'entendre.
Puis merde, je vote à droite.
La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins. À commencer par mon voisin. Ah, mais c'est sympa ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aimais pas Sardou, c'était idiot. Pourquoi toujours mon chien préféré, c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite. Je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai. Ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat. Mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul à trio qui applaudit. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpabilisé. Fini le partage, plus que le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pille. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi, ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer, sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées. Les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on doit supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite. Les impôts chance. Je suis fier, je vote à droite. Marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France.
Les Fatal Picard et puis merde, je vote à droite. Un autre qui a envie de dire et puis merde ce soir, il s'agit de Philippe avec sa chronique que vous commencez à connaître. Va donc voir ailleurs.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Alors, je tue Bilou Tarel. Ça te rachait ce week-end? T'es allé voir le film?
T'as pris des cours intensifs.
Mademoiselle, moi, je sais pas, y a de l'accent canadien.
Oh, et l'accent créole, j'imagine.
Ouais, mais
un petit mot peut-être.
De quoi en créole? Allez. Tu me dis à toi, mon cavard dit à toi, tu sais que t'es où l'est.
Je t'avais dit non, Marie-Laure, je t'avais dit non.
Bah écoute, je te remercie, Marie-Laure.
Ça veut dire quoi?
Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je peux te dire tout ce que t'as envie.
D'accord. C'est pas plus malin que ça. Elle nous a pas insulté, je
sais. Oui, ça fait classe. En tout cas, si vous avez compris mon inquiétude, c'est que vous avez suivi la règle numéro 1 en politique, connaître ce qui plaît à la plèbe, ici le ch'timi. Je sais pas, vous avez vu Bienvenue chez les ch'tis?
Non, je l'ai pas vu, je suis un peu spéciale, j'aime pas trop le cinéma.
Ah d'accord, bon en tout cas, elle est un peu spéciale. Pour ma part, les sentiments sont un peu tièdes concernant ce film. C'est un film carte postale, plaisant, des gens qui sourient et oh, le joli beffroi derrière. Mais ce qui gêne un peu, c'est le côté anthropologie du bon sauvage, le gentil gars du Nord. Le côté, moi, j'ai un cœur gros comme chat. C'est comme dire à une fille, elle est gentille. L'intelligence du cœur, quoi. C'est ce qu'on remarque quand il n'y a justement rien à remarquer. Si en plus, ils devaient être chiants et prétentieux, les gars du Nord, ce serait pas terrible. Des Parisiens. Des Parisiens qui écrivent des banderoles, en quelque sorte. Des banderoles honteuses, car les ch'tis, je tiens à le répéter, j'ai vécu un petit peu dans le Nord, ne sont ni pédophiles, ni consanguins, alcooliques à la rigueur.
Chômeurs,
parfois. Certains. Mais au-delà de ça, un danger plus pressant encore nous guette à travers ce film. Vous imaginez déjà le nombre monumental de merdouilles cinématographiques et régionalistes à venir. À quand Le Limousin c'est cool ou encore La Seine-et-Marne, ça vous gagne. Je patiente à peine. Comme Le Mineur de fond, en effet, le studio de cinéma creuse le filon. Hein. Il épuise la veine jusqu'au coup de grisou dans les salles obscures. Alors, en revenant du cinéma, on s'aère un peu en allumant la télé. Et là, que voit-on? Du patinage artistique pour ma part. Et l'important alors, dans le patinage, hein, ce n'est pas la chute ou Brian Joubert, ou les deux en même temps, non. Le clou du spectacle, c'est la peur. Un programme libre cours est une danse avec la honte qui vacille sur le fil du rasoir. Les patins éraflent la glace au rythme de la tachycardie de Nelson Montfort. Attention, triple lutz et c'est passé. Ouf, c'est bon. La phrase est typique hein, du sport. C'est bon, c'est passé. Avec le plongeon, ça doit être le seul sport où la chute est perpétuellement proche. Alors, aucun commentateur n'a réellement confiance en son champion, et on se rappelle tout à coup que la glace, ça glisse, que c'est dangereux. Bref, la peur est palpable. C'est le syndrome Candeloro. C'est un peu ce qu'est en train de vivre M. Sarkozy. Vous êtes resté peut-être pendant les commentaires du Zitrone maigre qui est devenu Stéphane Bern. Eh bien, le stress était palpable à Londres. Hein. Au mieux, les commentateurs savouraient l'absence de chute. À une autre époque, qui aurait pensé à donner une note à Chirac sur sa maîtrise de l'étiquette? C'est ridicule, hein, c'est dans l'ordre des choses, on va pas dire « il a réussi à baiser la reine, à faire un baise-main à la reine », on l'aurait pas dit, c'est vrai. Bon,
si c'est ça l'éthique, je comprends la terreur. Hein.
Il a réussi. L'étiquette n'est plus ce qu'elle est. Là, incroyable, un expert a donné quand même sur TF1 en direct un 10 sur 10 pour les premiers protocoles.
Ah, c'est vrai.
Avant que d'entendre Bern dire cette phrase admirable « attention », la reine n'aime pas le baise-main. Nicolas serre la main, le spectateur a compris. Le double Axel est passé et la berne reprend. Révérence, parfait. Le double Sarko arrière, lui aussi, est passé, bravo. Tous ces éloges forcés du tact présidentiel sont à la fois nécessaires et ratés. Nécessaire car tout le monde craint la chute du patineur, hein, il faut nous rassurer. Alors on donne un 10 sur 10 comme une juge biélorusse, mais c'est raté en même temps car ça enferme Sarkozy dans le complexe Candeloro. Le public sait maintenant que la chute est probable, que la glace est truqueuse, que l'ensemble de la langue anglaise est d'ailleurs un faux ami, waiting my speech. On veut rassurer, mais on ne fait que souligner l'existence de la peur et du risque. C'est un triste suspense. Point positif en Angleterre, car là, ce que j'ai vraiment aimé, moi, ce n'est pas le petit tailleur gris qui était très mignon au demeurant.
Le bibi. La robe du soir, Marine.
C'était plutôt le rose. Moi, c'était le rose aux joues lors du petit sketch avec son mari. Lui, au journaliste, vous avez chaud?
Ouais, on a chaud.
Alors, et là, la dame qui tombe la veste. Et alors, ce ne sont pas les épaules nues hein, qui l'ont fait rougir. Elle a vécu pire. Mais à mon avis, ce qui l'a fait rosir, c'est divine joue, c'est la lourdeur de la blague. Et oui, 2 mois pour juger, était-ce peut-être un peu rapide, Carla? Alors, bienvenue chez les petits, Madame Sarkozy.
Ah, c'est vrai que c'était...
Philippe.
Bravo. C'était un moment incroyable, ce moment où...
Inéligible, ouais.
Inéligible, hein. Ouais. Où Nicolas Sarkozy dit à la salle, vous avez chaud. Et là, il y a Carla qui enlève sa veste. Et à ce moment-là, il dit « Ok ». En la pointant du droit.
Je suis deg, oui, je l'ai pas vu, moi non plus.
Vous qui êtes proche du pouvoir, quel était le but de cette blague? Est-ce que c'était pour dire « Allez, on est entre nous,
non,
je sais comme elle est bonne, ma meuf ».
Si
est-ce que c'est juste qu'il a pas d'humour? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il fait beaucoup de blagues, elles peuvent pas toutes être drôles.
Ouais,
quoi.
D'accord.
Enfin,
okay. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il les choisisse, parce que ça passe.
Souvent, le connaissant bien, je sais aussi que c'est souvent un peu histoire de détendre l'atmosphère. Donc bon... c'est vrai que dans ce genre de moment, on ne dit pas forcément ce qu'il y a de plus drôle. Le but, c'est de mettre tout le monde à l'aise. Bon, voilà.
Est-ce que vous le trouvez, lui, à l'aise dans son costard de nouveau président, là, depuis quelques semaines? Où il essaye d'avoir un style beaucoup plus présidentiel, beaucoup plus solennel. Il a pas l'air complètement à l'aise là-dedans et on sent que...
Non, moi, je le trouve... Bon, en tout cas, je trouve que... Il a l'air d'aller mieux, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu une période, oui, où je l'avoue, peut-être qu'il n'avait pas l'air si à l'aise. Moi, je trouve que depuis quelques semaines, il a repris du poil de la bête et qu'il est parfait dans son costume.
Vous êtes optimiste pour la suite des réformes du gouvernement? Vous ne pensez pas que Nicolas Sarkozy s'est décrédibilisé en quelques mois et que ça va être dur maintenant de soutenir les réformes, d'avoir le soutien du pays pour ça?
Ah non, bah, je pense que... De toute façon, je vois que les sondages, ça tangue, mais...
Ça revient vite, déjà.
Oui, voilà, c'est ça. Il a déjà repris 3 points. Bon, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez abstrait, hein, les sondages. On ne comprend pas trop pourquoi il y a des points qui tombent, qui partent, qui reviennent. Moi, je ne me fais aucun souci. Je pense que, de toute façon, a priori, les réformes, on va commencer à en voir les fruits avant la fin de son mandat. Il aura eu au moins le courage d'affronter peut-être quelques mois, voire quelques années d'impopularité, le temps que tout se mette en place. C'est courageux, je trouve. Mais je pense que d'ici la fin de son mandat, on en aura vu les bienfaits. Je pense qu'il remontera, oui.
Pourquoi on n'a pas déjà vu les bienfaits de cette politique de la droite, alors que finalement, ça fait quand même 6 ans qu'elle est au pouvoir maintenant?
Oui, mais les projets n'étaient pas les mêmes. On ne peut pas comparer ce qu'avait engagé Chirac et ce que Nicolas Sarkozy est en train d'entreprendre. Il y a tout un tas de choses concernant notamment les retraites ou quoi, au sujet desquelles les présidents précédents ont été extrêmement frileux. Et là, il a au moins, on en pense ce qu'on veut, hein, mais il a le mérite de prendre les choses à bras-le-corps. Et les retraites, la sécu, tout ça, c'est des sujets qu'on laissait de côté parce qu'on ne voulait pas mettre les gens dans la rue, parce qu'on voulait justement conserver sa cote de popularité. Bon, et ben, il a le courage de mettre les mains dans le cambouis. Et ça, on ne peut pas dire que, même si c'était la droite qui était déjà au pouvoir, on ne peut pas dire que la politique est continue.
Vous avez l'impression que c'est vraiment ces réformes qui ont fait baisser sa popularité?
Oh, je pense. Bon, après, c'est vrai, il y a des incompréhensions quand on n'est pas capable de le laisser tranquille pendant ses vacances et qu'on crée des scandales là où il n'y a même pas lieu d'en créer au sujet de vacances, de bateaux, de machin. Bon, moi, je suis pour qu'on le laisse tranquille. C'est vrai que les gens, malheureusement, à mon avis, ont le cerveau un peu obstrué par des espèces de polémiques et de scandales qui sont montés de toutes pièces par les gens de gauche. Bon, je pense effectivement, oui, il y a des choses dont il pâtit parce que, voilà, on ferait mieux de se taire et... Et malheureusement, ben voilà, on crée des soucis là où il n'y en a pas.
Et justement, vous n'avez pas peur, vous, d'être trop exposé, cette exposition médiatique traquée? C'est quand même une des parties de la vie politique qui peut parfois faire souffrir les personnes. Est-ce que vous êtes préparé à ça?
Eh bien, pour être très honnête, en fait, quand...
Je n'ai pas de vie privée.
Non, mais c'est pas loin de ça, en plus. Hein.
Oh. Ah, ben voilà, on aura une info.
Et ben voilà.
Il a fallu une heure quand même pour arriver à ce résultat.
Bon, non,
belle
mais donc,
chasse, Thomas.
Non. Oh là là, ne traquez pas le pauvre petit fan que je suis.
Oh, pas du tout.
Non, mais c'est vrai que non, bon, pour le coup, les médias, c'est vrai que ça fait toujours un peu fantasmer au début quand ça a commencé. C'est vrai que je trouvais très, très glorifiant et tout de voir quelques articles, je l'avoue. Hein, et j'en suis très vite
revenue. C'est vrai que ça doit être sympa, ça.
Non, mais j'en suis vraiment...
Pour nous qui n'avons pas un article sur notre émission, j'imagine que ça doit être très sympa.
Mais non, mais ça a un côté sympa et en fait, ça apporte plein de choses que j'aime pas trop non plus. Je trouve que ça fausse beaucoup les rapports sociaux. Bon, moi, je suis en ce moment accusée de toutes parts par mes amis ou autres d'avoir juste la grosse tête parce que je crois que quand on réussit, on a en fait une dette envers tout le monde. Il faut être 2 fois plus dispo, 2 fois plus sympa, 2 fois plus tout. Ou alors, on a la grosse tête.
C'est juste... un message?
Oh non, non, je n'ai pas de message de
même, même vos amis vous regardent différemment, c'est ça que
vous... J'ai un peu le sentiment. Moi, je pense que quelqu'un qui a la grosse tête, c'est quelqu'un qui se met à jouer le mondain et qui se fait mousser un peu. Moi, je suis tranquille dans mon coin, je ne demande rien à personne. Et... Bon, je trouve que ça fausse les rapports sociaux. La politique est déjà un milieu vachement compliqué. Ça attise encore plus les jalousies. Ce n'est pas évident à gérer les médias. Et moi, c'est arrivé d'un coup comme ça, pouf. Donc, j'ai décidé que, en tout cas, je voulais pas, ce n'était pas du tout une fin en soi. Et en plus, j'ai parfois un peu le sentiment aussi d'être un peu une petite marionnette parce que je suis la plus jeune, que je souris, que je fais des blagues, etc. Donc j'aimerais surtout maintenant faire des médias quand on me laisse parler de mes dossiers et quand je peux vraiment rentrer dans le fond. Sinon, faire des médias pour faire des médias, ça ne m'intéresse pas.
Marie-Laure, moi j'ai une petite question. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes à l'Élysée?
Mon meilleur souvenir depuis que je suis à l'Élysée...
Il a intérêt à être bon parce qu'on va se quitter là-dessus.
Je crois que c'était vraiment c'était le 14 juillet de l'année dernière, le soir du 14 juillet, parce que moi, enfin, on venait d'arriver à l'Élysée, c'est déjà un travail super laborieux, puis évidemment dans la logique du président a voulu tout changer, toutes les coutumes d'avant, etc., mettre un grand coup de pied dans la ruche. Et donc, on a eu un boulot magistral à faire. On était à peine arrivé à l'Élysée. C'est un boulot qui s'exécute en 3 mois. On a eu 1 mois pour tout modifier, tout changer. J'avais tout sur les épaules. Et j'ai eu une grosse pression toute la journée. Surtout que je pense qu'on m'a fait un peu aussi confiance par dépit. C'est qu'on était tellement dans le rush que du coup, il y a des choses qui ne me seraient pas revenues en temps normal, je pense. On aurait voulu quelqu'un un peu plus expérimenté. Et donc, du coup, j'ai tout pris, j'ai tout fait. J'ai pas dormi pendant un certain temps. Et j'avoue que le soir, j'ai bon pas aimé Tokyo Hotel. Je sautais partout et j'étais très contente d'avoir réussi ma mission. Voilà.
Voilà les turpitudes d'une conseillère de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Marie-Laure Harel d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour Politique Addict number 6. Peut-être la dernière.
Bon, longue vie à votre émission et plein de médias pour votre émission.
Ah, merci, c'est gentil.
Grâce à Dieu.
Salut à
Dieu.
Tous, merci. À la semaine prochaine. Merci. Ciao.
Bon, maintenant je mange du tout.